Bonjour Hervé Kemar.
Bonjour.
Le gouvernement a présenté hier les 50 premières mesures de ce qu'il a appelé le choc de simplification. La fiche de paye ne compterait plus que 6 lignes à l'avenir au lieu d'une trentaine. Les procédures d'embauche seraient simplifiées. Le code du travail a allégé. Il faut dire qu'il compte actuellement plus de 3500 pages. Il a enflé au cours des dernières décennies et des dernières années. Est-ce que ce sont des mesures qui peuvent libérer la croissance, pour reprendre une formule qu'aimait bien Nicolas Sarkozy?
Avec beaucoup d'ardeur et sans ironie, je dis bonne chance, parce que ça fait tellement longtemps qu'on parle de simplification, qu'on espère que ce train-là va enfin être efficace, puisque c'est vrai que les Français, qu'il s'agisse des ménages et bien sûr des chefs d'entreprise, pour reprendre l'expression de Georges Pompidou, sont emmerdés par la paperasse et il faut absolument faire quelque chose. Alors, il y a tellement eu de trains de simplification que on pourrait être sceptique, mais moi je dis chiche et espérons que ça fonctionne.
Et est-ce que les premières mesures annoncées sont les bonnes ou est-ce qu'il y en avait d'autres plus urgentes à prendre?
Oui, il y a de très bonnes mesures dans le catalogue qui a été annoncé il y a quelques temps. J'ajouterai un sujet particulier qui me préoccupe beaucoup, c'est la question du RSI, le régime social des indépendants. Qui fonctionne très très mal et qui met beaucoup de chefs de petites et moyennes entreprises dans la difficulté. Donc si j'avais un message à adresser au gouvernement, occupez-vous du RSI.
Alors parmi les mesures annoncées par Manuel Valls lors de son discours de politique générale, il y en a une contre laquelle vous vous êtes immédiatement élevé, c'est la réorganisation des collectivités territoriales, notamment la suppression des conseils généraux. C'est pourtant une idée qui n'est pas nouvelle. Nicolas Sarkozy avait voulu lui aussi réorganiser les collectivités territoriales en mettant fin à ce qu'on avait appelé le millefeuille administratif. Ça n'est pas, sur le fond, une bonne idée de vouloir simplifier
tout ça ? Ah si, bien sûr, et je l'ai toujours dit, et c'est pourquoi j'ai soutenu ce que nous avions fait en créant le conseiller territorial qui aurait divisé le nombre d'élus par deux et permis de simplifier les compétences entre les départements et les régions. Donc moi, je suis un réformateur, donc il faut réformer notre millefeuille, mais Manuel Valls, dans son discours, a fait un coup de communication, puisque c'est un homme de com, comme on le sait. Et je crois que ce que veulent les Français aujourd'hui, c'est de la proximité. Et on supprimerait un échelon de proximité pour agrandir les régions que les gens ne connaissent pas. Donc, on va avoir un débat, il faut les construire et nous aurons des propositions extrêmement précises. J'ajoute peut-être une dernière chose, c'est que la France n'est pas homogène. Et ce qui est vrai dans la région Île-de-France, ce qui est vrai dans les régions où il y a des métropoles, ce qui est vrai dans des régions où il y a une forte identité régionale, comme en Bretagne par exemple, ou en Alsace, ou en Normandie, n'est pas forcément vrai partout en France. Donc je pense qu'il faut qu'on sache organiser la République en tenant compte des spécificités locales.
Cette idée-là, vous la partagez avec des élus ou des présidents de conseils généraux ?
Oui, je pense que c'est pas seulement une affaire d'élus, c'est une affaire de citoyens. Justement, il faut pas que la réforme des territoires soit confisquée par les élus. Il faut associer les citoyens, et je suis persuadé qu'on pourra écrire une France renouvelée, puisque c'est bien de cela dont il s'agit.
Ouais, nous sommes à 6 semaines des élections européennes. Selon un sondage IFOP, les listes Front National arriveraient en tête, 24% des voix, devant l'UMP, 23%, le Parti Socialiste allié aux radicaux, 21%, le FN, premier parti de France aux européennes, c'est devenu quasi inéluctable ou
vous
on peut
l'éviter ? Vous oubliez les centristes, puisque l'UDI compte présenter des listes dans les régions. Donc en réalité, ce qu'on appelle la droite et le centre de gouvernement, c'est bien plus élevé que la seule UMP. Donc nous pouvons compter sur plus de 30%, ce qui relativiserait ainsi le score du Front National. Alors c'est pas pour minimiser le score du Front National, mais simplement pour dire que nous devons, à l'occasion de ces élections européennes, présenter un vrai projet européen aux Français, parce que en France, on n'a jamais su parler de l'Europe, et ça date pas d'aujourd'hui. On a eu pendant des années un combat caricatural entre les eurolâtres béats, d'une part, et d'autre part, les europhobes crépusculaires. Je crois qu'il faut vraiment dépasser cette caricature et dire sans doute deux choses. La première, c'est que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est évident que beaucoup de grands sujets se traite au niveau des continents. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est la Russie dont on parle beaucoup en ce moment. Ça doit être évidemment l'Europe, c'est les États-Unis. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que l'Europe se mêle moins de ce qui la regarde pas, qui tracasse souvent les chefs d'entreprise et les Français, et surtout soit davantage protectrice qu'elle ne l'a été au cours de ces dernières décennies.
Vous pourriez reparaphraser Pompidou en disant qu'il ne faut pas que l'Europe emmerde les citoyens.
Oui, c'est ça, bien sûr, parce que l'Europe emmerde les citoyens sur certains sujets, et on a l'impression qu'elle est absente d'autres. Voilà. Alors, ceci étant, moi, je suis un euro-réaliste, je suis favorable à la construction européenne, et je suis un peu irrité de voir de tant de démagogie où on charge l'Europe de tous les maux pour s'exonérer de ses propres responsabilités.
Alors, l'UMP, aujourd'hui, a bien du mal à définir sa ligne européenne, et elle approche des élections européennes. Ça va être ce matin l'objet d'un comité stratégique de votre parti.
Oui.
Ce qui résume au fond bien, ce qui résume au fond bien, et vous en parliez, les divisions de l'UMP sur l'Europe, c'est la décision, par exemple, d'Henri Guénot, qui a annoncé qu'il ne voterait pas, puisque pour lui, le candidat, la tête de liste en Île-de-France, Alain Lamassoure, incarne l'Europe dont plus personne ne veut. Donc on a là les eurolâtres et les europhobes.
Oui, mais il y a toujours dans les partis politiques, soit au PS ou à l'UMP, des voix discordantes sur l'Europe. Sur l'UMP, vous auriez pu rajouter mon ami Jacques Myard, qui est très anti-européen.
Qui est un souverainiste assumé.
Voilà, et qui a toujours des positions très différentes. Henri Guénot se rattache à cette forme de pensée que je respecte, mais que je ne partage pas. Non, ce que je trouve dommage...
Laurent Wauquiez, qui maintenant dit qu'il faut revenir à une Europe à 6,
oui,
par exemple.
Oui, c'est les trajectoires individuelles. Dire qu'il faut revenir à l'Europe à 6 est réducteur. Alors, il faut... bien sûr, davantage organiser le noyau de la zone euro que ça n'est le cas aujourd'hui. De même, penser que le couple franco-allemand est terminé. Bien sûr,
c'est
le couple franco-allemand ne résume pas l'Europe, mais ça, c'est toujours une découverte naïve que l'on fait quand on commence à s'intéresser à l'Europe. On dit, oh là là, on va supprimer le couple franco-allemand. Et on se rend compte, en réalité, que c'est à la fois le moyeu et le moteur de la construction européenne.
La Banque Centrale Européenne semble aujourd'hui vouloir se saisir du problème de l'euro trop fort. Ça, c'est une bonne nouvelle en perspective ?
Oui, là, je vais être politiquement incorrect, mais je trouve que la Banque Centrale Européenne, ces dernières années, a eu de grands dirigeants. Jean-Claude Trichet a fait un travail formidable au moment de la crise qui a éclaté en 2008, et nous lui devons beaucoup. Et Mario Draghi, avec une politique assez volontariste pour relancer l'économie européenne, va dans le bon sens, et ses déclarations, qui je l'espère sont suivies d'effets contre l'euro fort, vont assurément dans le bon sens.
D'un mot, puisque vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, l'Europe, justement, sur la situation en Ukraine, elle ne peut que constater son impuissance.
L'Europe a été un peu désinvolte dans cette affaire, puisqu'elle a lancé une politique de voisinage sans en mesurer les conséquences politiques. Ça a été géré de manière très technocratique à Bruxelles. Deuxièmement, elle découvre que les questions de défense et de sécurité demeurent très importantes. Donc on est loin de cette attitude un peu irénique ou désinvolte qui pensait qu'il n'y avait plus de risques en Europe et que les foyers de tension étaient partout dans le monde. Et on voit bien que nous sommes dans une période intermédiaire. Nous ne sommes évidemment et heureusement plus dans la guerre froide, donc il n'y a plus d'équilibre de la terreur, et que les politiques de sanctions, comme l'a dit Elisabeth Guigou il y a quelque temps, c'est un poison lent, si je puis dire, donc qui ne produit pas ses effets toujours. Donc l'Ukraine pose beaucoup de questions à l'Europe.
Merci Hervé Gaymard, bonne journée.